Chapitre 2. Des royaumes de l'Occident passons à l'Empire. Constantinople avait remplacé Rome. C'était la capitale du monde. L'Empire, qui s'étendait des Alpes à l'Euphrate et du Danube au désert de l'Afrique, avait perdu de vastes territoires à l'ouest et au nord, mais il en avait gagné au sud et à l'est. À l'apogée de la puissance de Justinien, l'Empire d'Orient comprenait 64 gouvernements différents, éparchies, dont un des plus petits était la Sicile. Dans 935 villes, on obéissait aux ordres de l'empereur. Alors que tous les peuples barbares vivaient dans un état quasi anarchique, l'Empire avait une organisation puissante et compliquée. Tous les services étaient centralisés, tous les fonctionnaires étaient hiérarchisés. Le gouvernement civil, séparé du commandement militaire et comprenant l'administration, la justice et les finances, appartenait aux éparques ou gouverneurs de province, qui relevaient des vicaires ou gouverneurs des diocèses, lesquels relevaient des deux préfets des prétoires, on dirait aujourd'hui ministres de l'Intérieur, résidant à Constantinople. Chacun de ces magistrats avait un nombreux personnels sous ses ordres. Tel gouverneur d'une éparchie d'Orient employait jusqu'à 700 fonctionnaires et agents subalternes. L'effectif de l'armée comptait 640 000 hommes. Les troupes stationnées dans chaque province étaient sous le commandement direct du duc ou du comte de la province. Ces généraux dépendaient du maître de la milice, ministre de la guerre. Pour les expéditions où il fallait réunir plusieurs corps d'armée, on nommait parmi les ducs ou les comtes un stratège, commandant d'armée, et quelquefois un stratélate, général en chef. Outre le préfet des prétoires d'Orient, le préfet des prétoires d'Occident et le maître de la milice, les grands officiers de la couronne étaient le grand chambellan, le maître des offices, qui dirigeait toute la maison impériale, le questeur, chargé de la rédaction des lois et décrets, le comte des largesses sacrées ou ministre des Finances, le comte du domaine, chef des agents domaniaux. Ces différents officiers et magistrats, qui portaient les titres de patrice, illustre, spectable, clarissime, perfectissime et égrégius, formaient sous la présidence de l'empereur comme un conseil des ministres. Le préfet de Constantinople, le préfet de police, le patriarche et le commandant des gardes du palais y étaient souvent appelés. Des institutions de la Rome républicaine, il subsistait encore le Sénat et le consulat. Dans toutes les villes, il y a des écoles. Dans toutes les parties de l'Empire, les tribunaux rendent la justice d'après ces lois justinianéennes qui forment encore la base des législations modernes. Des routes entretenues à grands frais sillonnent les provinces, des relais de poste assurent la rapide transmission des dépêches gouvernementales et militaires. Des corps de troupes en station permanente, des forteresses élevées d'espace en espace, des lignes continues de fortifications protègent les frontières. Les pauvres trouvent des refuges et les malades des hôpitaux. Le commerce et l'industrie prospèrent, les arts créent un nouveau style, l'esclavage disparaît presque entièrement, les privilèges de la naissance sont inconnus, il n'y a ni caste ni fief, l'égalité et la liberté civile existent pour tous. Ainsi, l'Empire contraste singulièrement avec les peuplades barbares qui l'entourent et le menacent. C'est encore le monde romain, le monde césarien, mais christianisé. De fait, Justinien n'est point un empereur d'Orient, un empereur grec. Ce paysan slave se fait tout latin. Il réagit contre l'hellénisme de Théodose II et d'Anastase. Il reconnaît la suprématie de l'évêque de Rome sur le patriarche de Constantinople. C'est en latin qu'il fait rédiger le code, les instituts, le digeste. Il rêve la reconstitution de l'ancien empire romain et c'est dans cette idée qu'il entreprend les guerres d'Italie, d'Orient et d'Afrique. Pour lui, le nom d'Hélène est synonyme de païen. Il persécute les Grecs et ferme les écoles d'Athènes. L'empire romain finit avec Justinien, l'empire grec ne commence qu'avec Héraclius. Justinien n'est pas un autocrator, c'est un César. À regarder de près, il est vrai, on s'aperçoit que la grandeur du règne de Justinien tient du décor de théâtre. La prospérité de l'Empire est plus apparente que réelle. Cette administration perfectionnée profite surtout au despotisme Cette orthodoxie rigoureuse engendre les persécutions, cette égalité n'est que la servitude pour tous, ces lois si sagement élaborées sont souvent injustement appliquées, ces magnifiques monuments épuisent le trésor, ruinent les populations qu'on accable d'impôts, détruisent l'armée qu'on ne peut plus payer. Le consulat n'est désormais qu'un titre purement honorifique. Le Sénat, réduit souvent au rôle d'un conseil municipal, n'a plus que peu de part à la conduite de l'État. Le bon plaisir du souverain et de ses grands officiers se substitue à l'exercice de la justice. Les plaintes des sujets n'arrivent pas à l'empereur, les provinces souffrent et le peuple de Constantinople se déclare content pourvu qu'il y ait des distributions de blé et des courses dans l'hippodrome. Voilà ce qu'il faut dire, mais avant de condamner Byzance, il faut se rappeler la Rome des Césars. La plèbe romaine valait-elle mieux que le démos de Constantinople? Avait-elle des sentiments plus généreux? Méprisait-elle davantage le Panem et Circenses? Quels étaient donc au premier siècle le pouvoir des consuls, l'autorité du Sénat, la liberté des citoyens? Le peuple de la capitale abdique dans la plus honteuse des servitudes, et les plaintes portées contre les proconsuls témoignent des souffrances des provinces. Le souverain respectait peu les formes juridiques, puisqu'il frappait par le poignard et par le poison. On ne compte guère moins de conspirations, de soulèvements tumultuaires, de meurtres d'empereurs à Rome qu'à Constantinople, et ni les actes ni les mœurs des Tibères, des Caligula, des Messalines, des Nérons et des Domitiens ne sauraient être proposés en exemple. Ces règnes de sang et de boue, selon l'expression de Suétone, c'est pourtant ce que l'impartiale histoire appelle le Haut Empire, tandis qu'elle flétrit sous le nom de Bas Empire les règnes des Justiniens, des Héraclius, des Porphyrogénètes, des Manuel Comnène, des Jean XIII et des Constantin XIII, ce dernier empereur grec qui, vaincu après avoir repoussé les Turcs dans 4 assauts, s'écriait, au moment de tomber mort d'un coup de cimeterre, « La ville est prise et je vis encore !» Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce gouvernement si corrupteur, ce peuple si corrompu, cette administration si mauvaise, cette armée si misérable, ont fait durer l'Empire pendant plus de 900 ans, qu'ils ont résisté à 20 peuples, retardé de longs siècles l'invasion des Turcs, donné le christianisme aux Slaves, la civilisation aux Arabes et à l'Occident le trésor des lettres grecques.